Alors, a-t-on exceptionnel, consigne exceptionnelle. Ces consignes, elles nous sont données par Jésus aujourd'hui à travers les quatre impératifs qu'il nous donne dans cet évangile. Trois impératifs qu'il donne à la Samaritaine et un qu'il donne à ses disciples. Quatre impératifs, le premier d'entre eux, « Donne-moi à boire ». On entend dans la première lecture que la première réaction du peuple hébreu quand il entre dans le désert, c'est de dire « J'ai soif ». Et cette demande qui est reprise par un Jésus qui est fatigué, qui est assis au bord du puits et qui dit à la Samaritaine « Donne-moi à boire ». Ce cri qu'il criera encore par la suite sur la croix, hein, « J'ai soif ». C'est ce cri qui a saisi au cœur une sainte mère Thérésa, hein, en mettant dans l'écriteau de toutes les maisons qu'elle a fondées, de dire « Mais en fait, j'ai soif ». C'est ce cri-là de tous les pauvres, de tous les malades, de tous les abandonnés, de tous les isolés. Vous voyez, la soif, c'est ce besoin vital. C'est un peu le symbole de tous les besoins. Et cette situation extrême de pandémie, cette situation inédite que nous vivons actuellement, nous ouvre encore à toutes ces situations de besoins qui sont peut-être plus ordinaires et qu'en fait on n'entend pas. Dans ces temps, je pense à deux figures. J'ai déjà cité la figure de Mère Thérésa. Je pense à la figure d'un saint Camille de Lellis, qui avec ses frères, je pense au XVIIe siècle, ses frères camilliens, cet institut qu'il a fondé, lui-même était malade et en fait a été saisi au cœur par ce cri de tous les malades et il s'est mis au service, malade parmi les malades, mais malade au service des autres malades. Et il disait « La musique que je préfère, c'est celle que font les pauvres malades lorsque l'un demande qu'on lui refasse son lit, l'autre qu'on lui rafraîchisse la langue ou qu'on lui réchauffe les pieds, etc. » L'autre figure qui me saisit un petit peu, c'est la figure d'un saint Damien de Molokai, saint Damien de Voster, qui était mis sur une île isolée d'Hawaï, l'île de Molokai, ce prêtre belge du XIXe siècle, qui a été se mettre au service, de tous les lépreux qui étaient mis à part, qui étaient mis en quarantaine. Et on voit ce prêtre qui est mort lépreux parmi les lépreux. Pourquoi ? Parce qu'il avait été saisi par ce cri qui venait de cette soif. Donne-moi à boire, donne-moi à boire. Alors peut-être que dans ce temps particulier que nous vivons, mettons-nous à cette écoute de ce cri, de tous ceux qui crient « j'ai soif », de tous ceux qui crient « donne-moi à boire », de toutes ces personnes fragiles, isolées habituellement et qui le seront d'autant plus par ces circonstances. Je liste quelques petites idées qui me passent par la tête, mais pourquoi pas proposer de faire des courses, pourquoi pas apporter un plat, pourquoi pas téléphoner. Hier, je téléphonais à des paroissiens âgés, leur disant qu'il n'y aurait pas la messe, qu'on restait en union de prière, de les inviter à faire attention, de les inviter à limiter leurs déplacements, de les inviter à prier instamment le Seigneur. Des petits coups de téléphone, j'ai eu aussi mes parents. Voilà, la même chose pour eux, leur donnant des petites consignes, leur rappelant cela. Les enfants aussi, proposer une garde pour les enfants, c'est peut-être quelque chose qui est possible. Les enfants aussi vis-à-vis des plus âgés, peut-être faire des dessins d'enfants, hein, qu'on va poster dans les boîtes aux lettres. Vous voyez, créer tout un petit réseau de solidarité dans ces temps difficiles pour répondre à ce cri « Donne-moi à boire ». Le deuxième impératif, me semble-t-il, à travers celui-ci, appelle ton mari. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de mari? Cette Samaritaine a eu 5 maris, et puis elle en a un 6e actuellement, et puis finalement le 7e homme qui se présente à elle, c'est Jésus lui-même, c'est lui le véritable époux. C'est lui le véritable époux de nos âmes. Et donc dans cet appel, dans cet impératif, appelle ton mari, eh bien ça veut peut-être dire revisite ta vie, remets-y de l'ordre peut-être. Et voyez comme cette période inédite que nous vivons, elle coïncide avec le temps du carême. Un temps de carême qui est un temps de pénitence, qui est un temps de conversion, qui est un temps où je décide peut-être davantage de me mettre en situation de combat spirituel. Et actuellement, il y a du combat spirituel. Peut-être que je me mets davantage à l'écoute de la parole de Dieu. Peut-être que je vois aussi tous les points de conversion que j'ai à vivre dans ma vie. Voyez, on aurait peut-être envie, peut-être que le réflexe naturel dans ces situations difficiles, ce serait de se rassembler pour prier ensemble. Et là, c'est justement ce qui nous est empêché. Et donc cette situation, elle crée en nous, elle crée pour nous un véritable désert forcé, hein, comme une petite retraite à vivre, très particulière certes, hein, où on n'a pas forcément les nourritures habituelles, c'est-à-dire notamment ce viatique que constitue l'Eucharistie, qui est le pain qui nous rend fort, qui est le pain des anges qui nous est donné et qui nous rend fort pour notre route. Peut-être qu'on vit d'une manière particulière cette retraite, à l'image de ce qu'on disait dans l'Évangile au mercredi des cendres, hein, « Retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Vous voyez, redécouvrons à travers cette situation inédite que nos foyers, nos familles, hein, sont des églises domestiques. Vous voyez, comme la liturgie juive, elle est aussi domestique. Elle l'est davantage pour les femmes, hein, elle est aussi synagogale pour les hommes, mais vous voyez, comme la liturgie juive, elle est aussi domestique. Vous voyez que la messe du dimanche n'est pas le seul moyen de sanctifier le jour du Seigneur. Peut-être que nous avons à réapprendre ça, peut-être dans la douleur, peut-être dans les larmes, mais réapprenons à faire de nos foyers des églises domestiques, où l'on prie en famille, où l'on dit le bénédicité, où on réapprend des gestes tout simples, où on a cette prière dans notre coin prière, où on se met à l'écoute de la parole de Dieu, on ouvre sa Bible. Vous voyez, réapprenons cela. C'est un désert qui est forcé, et acceptons de vivre cette retraite, ce désert forcé à cette école-là. Appelle ton mari, revisite ta vie, mets-y de l'ordre, mets de l'ordre dans ton foyer. Le troisième impératif, c'est « Femme, crois-moi, le Père cherche des adorateurs. » Quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus la messe, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cet acte de communion spirituelle. Il nous reste cet acte d'adoration en esprit et en vérité. Quand il ne reste plus rien, il nous faut adorer. Et adorer, c'est toujours peut-être l'occasion d'intercéder d'une manière particulière pour les malades et pour les soignants. Voyez, les médecins prennent soin du corps des malades. Et dans l'adoration eucharistique, mon corps est mis en présence du corps même de Jésus. Et peut-être que c'est le lieu particulier où je vais intercéder pour tous ceux qui prennent soin du corps des autres. Voilà, en se mettant à leur service, en se mettant à leur écoute, en pratiquant tout ce qu'ils peuvent pratiquer par leur profession, par le temps qu'ils consacrent. Je rappelle ici que l'adoration eucharistique est toujours possible dans l'oratoire Saint-Joseph, dans le baptistère qui est au fond de l'église Saint-Pie-X. Cet oratoire de l'adoration perpétuelle, hein, où des gens adorent jour et nuit, voilà, tout au long de l'année. Il y a eu des restrictions, bien sûr, qui s'appliquent à cet oratoire où seulement 6 adorateurs peuvent adorer le Seigneur. Voilà, n'adorez pas à 20 dans cet oratoire, respectons des consignes de sécurité, de santé. Mais voyez, il y a toujours cette possibilité de pouvoir adorer le Seigneur. Et si on ne peut pas l'adorer dans l'adoration eucharistique, nous pouvons aller devant le tabernacle où Jésus est présent. Le quatrième impératif, c'est celui-ci, lever les yeux et regarder les champs dorés pour la moisson. Vous savez que dans un peu plus d'une semaine, dans 8 jours exactement, devait commencer cette mission paroissiale qui, de toute évidence, est plus que compromise, en tout cas ne se déroulera pas telle qu'elle était prévue tel que tous les organisateurs, tous les paroissiens qui se sont mis au service l'ont imaginé, l'ont concocté en quelque sorte. Et donc, quand on lève les yeux, qu'est-ce qu'on regarde? Les champs dorés pour la moisson. Regarde qui tu peux aider. C'est peut-être la charité d'une manière particulière, de se mettre au service les uns des autres, qui va évangéliser dans ce temps particulier. Voyez, on ne reprochera jamais à l'Église de s'occuper des pauvres, de s'occuper des malades, de s'occuper des personnes âgées, de s'occuper des personnes isolées. Au fond des églises aussi, nous mettons sur les présentoirs l'acte de communion spirituelle. Eh bien, peut-être qu'au lieu d'en prendre un pour moi, pour ma propre communion spirituelle, vous savez que la messe est radiodiffusée tous les jours à 15h sur RCF Radio Sainte-Anne, qui a la messe télévisée, qui a toute une proposition de messe télévisée de différentes paroisses, de différents diocèses, notamment le diocèse de Vannes. Mais au lieu de prendre juste mon acte de communion spirituelle, peut-être que je peux en prendre plusieurs. Peut-être que je peux en faire des photocopies, peut-être que je peux en mettre dans les boîtes aux lettres, en mettant un petit mot de soutien. Et c'est l'occasion, peut-être, d'annoncer le Christ. C'est l'occasion de montrer que le chrétien évangélise par sa charité. Voilà, restons bien unis dans la prière, dans l'adoration, et aussi dans l'action, dans tout ce que nous pouvons faire pour répondre à ce cri « J'ai soif ».